Très heureux de rejoindre maintenant au bout du fil le paranageur de 27 ans, Jean-Michel Lavallière, qui a accepté de prendre un petit moment dans son entraînement pour nous parler. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Aujourd'hui à l'émission, on s'intéresse aux jeux du Commonwealth. J'aimerais savoir, toi, c'est quoi ta vision de ces jeux-là? Qu'est-ce que tu anticipes pour la compétition qui va avoir lieu du 4 au 15 avril en Australie?
Premièrement, merci de me recevoir à l'émission. Non, pour moi, je suis vraiment excité en prévision des Jeux du Commonwealth. Un événement multisport qui inclut des épreuves olympiques et paralympiques. Il n'y en a pas des tonnes.
Ouais. C'est un peu la particularité de l'événement, là.
Oui. C'est une des particularités, puis je pense que c'est une des choses qui le rend vraiment intéressant pour nous du côté avec Paralympique, mais aussi pour la population en général, parce que ça nous donne une vitrine qui est, je dirais même, pratiquement plus grosse que les Jeux paralympiques pour montrer ce qu'on fait.
Oui, parce que, bon, contrairement, pour bien comprendre, contrairement par exemple aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques, où il y a deux tableaux cumulatifs en parallèle, là, les médailles que vous cumulez vont aller tous dans le même butin, là.
Exactement. Donc, la médaille que Penny Oleksiak peut gagner, exemple en natation, a la même valeur que la médaille qu'Aurélie Rivard peut gagner ou que moi-même, je peux gagner à la compétition en natation et au total final pour les médailles pour le classement des pays.
À ma connaissance, c'est effectivement très, très rare comme événement, mais il n'y a pas aux Jeux du Québec également où on va inclure les médailles remportées dans les parasports au tableau cumulatif?
Oui, en effet, il y a les Jeux du Québec et également les Jeux du Canada qui fonctionnent sur un peu le même principe que les Jeux du Québec et les Jeux du Commonwealth.
Est-ce que toi, tu as déjà participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016? C'était ta première participation sur la scène paralympique. Penses-tu qu'éventuellement devoir joindre les médailles gagnées autant du volet olympique que paralympique, ça pourrait être bon pour le parasport?
Je pense que les personnes deviendraient un peu confuses, surtout que présentement, on parle en date d'aujourd'hui, les deux événements se déroulant sur deux dates différentes, à environ trois semaines, un mois d'intervalle un de l'autre, les personnes perdraient la perspective un peu de « OK, ces médailles-là ont été gagnées où, quand?
Ouais. »
Et je pense que connaissant, il y a un plus grand nombre de preuves aussi ou de médailles qui sont à disputer au niveau paralympique. Et j'aurais l'impression que notre contrepartie olympique trouverait qu'il se ferait un peu avaler dans toutes ces médailles-là.
Je comprends.
Qu'on pourrait avoir l'impression on met ça en parenthèse, bien sûr, mais le petit nombre de médailles qu'un pays peut remporter aux Jeux olympiques perdrait un peu de leur valeur, peut-être.
Puis aussi, on n'est pas encore rendu non plus à l'apogée. Il y aurait du travail à faire pour mieux encadrer et encourager les para-athlètes au Canada, mais reste qu'au Canada, on est quand même assez choyé en termes de soutien qui est offert aux para-athlètes. Puis ça créerait il y aurait sûrement certains pays qui ne seraient pas d'accord, eux qui encouragent moins les athlètes avec un handicap qu'on peut le faire au Canada ou aux États-Unis, par exemple. Ça serait un avantage un peu déloyal.
Oui. Tout à fait. En fait, je pense même on finit de nommer les États-Unis, mais leur programme, je dirais paralympique, est beaucoup moins fort que le nôtre. La promotion du volet paralympique est beaucoup moins forte pour un pays quand on regarde aux Jeux olympiques, là, exemple aux Jeux olympiques d'été, où qui remportent pratiquement, ils finissent en première position des pays médaillés, du côté paralympique, c'est vraiment pas le cas. Et ça, c'est connaissant aussi le poids que le comité olympique américain a sur le CIO, le comité international olympique, ça pourrait avoir des bonnes répercussions pour une combinaison des
deux volets
des médailles.
Toi, sans faire de mauvais jeu de mots, tu baignes, hein, t'es nageur, mais tu baignes dans le milieu avec un pied dans un bassin, un pied dans l'autre depuis assez longtemps parce que tu participes aux compétitions universitaires. Là-bas, t'es mêlé avec des nageurs qui n'ont pas de handicap.
Oui, exactement. Je fais plus de compétition universitaire depuis les 2 dernières années et demie. Mais quand je compétitionnais sur le circuit universitaire canadien, je compétitionnais contre des nageurs sans handicap. Et il n'y a pas encore de circuit où, comme exemple, aux Jeux du Québec, aux Jeux du Canada, aux Jeux du Commonwealth, qui intègre les parents-nageurs ou qui offre des épreuves spécifiquement pour les personnes ayant un handicap au niveau universitaire.
OK.
Il faut comprendre aussi que, rendu au niveau universitaire, il y a déjà beaucoup moins d'athlètes en natation en général, handicap sans handicap, et là, on commence à avoir très, très peu d'athlètes. Point.
Ça serait
Donc,
difficile de faire un club à part, en fait, là.
pas seulement un club à part, mais même si les clubs étaient intégrés, c'est d'avoir assez d'athlètes dans chacune des universités pour que justement les universités soit ne se sentent pas exclues du processus, ou je pense que présentement, qu'est-ce qui manque peut-être, c'est justement l'incitatif que le sport universitaire canadien pourrait obliger les universités en leur disant, écoutez, si vous avez des parents nageurs dans votre club universitaire, ben, leurs médailles valent autant que vos nageurs sans handicap et ou peut-être même plus. Donc ça pourrait inciter les universités à justement avoir un plus grand recrutement de nageurs avec un handicap.
Une meilleure représentation, effectivement. Et pourquoi est-ce que tu dis que ça peut même valoir plus? Est-ce que c'est parce que c'est des objectifs que les universités pourraient se fixer d'avoir une meilleure représentation au sein de ces athlètes? Dans ce sens-là, on pourrait voir ça comme une médaille qui vaut plus qu'une médaille remportée par un athlète, par exemple?
Ben, je vous donne un exemple. Lors des relais, lors des compétitions universitaires, l'équipe gagnante fait 40 points sur le classement.
OK.
Et lors d'une épreuve individuelle, le gagnant de l'épreuve individuelle en fait 10 points. Donc, de cette façon-là, les organisations sportives ont mis de l'avant la profondeur d'une équipe en favorisant une équipe qui est peut-être plus équilibrée, qui est capable d'assembler 4 personnes qui forment un relais en natation pour donner un résultat d'équipe meilleur, ben, ils pourraient peut-être faire également la même chose pour les épreuves en paranatation, par exemple, et accorder au gagnant de l'épreuve, au lieu des 10 points à l'individuel, ben, en accorder 40 comme si c'était un relais. Et là, les nageurs. Les paranageurs auraient un plus gros impact sur les
Final.
résultats finaux. Et au final, ben, je pense que ça pourrait inciter les universités à justement pousser leur recrutement un peu plus loin.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis toi, ben là, t'es encore très très jeune, t'as 27 ans, mais on dirait que tu serais comme promu à un avenir de gestion dans un organisme futur comme à Natation Canada, avec une vision comme la tienne. Est-ce que ça pourrait t'intéresser éventuellement? Je sais que tu fais des études aussi en administration du sport, là.
Là, moi, présentement, je suis étudiant à l'Université de Montréal en kinésiologie.
OK.
Je termine la session prochaine, la session à l'automne 2018. Et je suis présentement, oui, en train de regarder mes opportunités de future carrière qui sortent un peu de la natation en tant que nageur. Et oui, non, c'est une des avenues qui pourrait m'intéresser tout à fait. Devenir administrateur, soit à Natation Canada ou à d'autres échelons.
Est-ce que j'ai mal lu ça dans mes notes ou il y avait une erreur parce que j'avais cru comprendre que tu avais étudié en administration à Laval?
Ah, que
Peut-être que c'est
j'étais
la
une personne.
biographie qui n'est pas à jour sur le site, là.
Oui, il y a des bonnes chances. Ça fait un petit bout que j'ai pas mis à jour cette biographie-là, mais j'étais en intervention sportive à l'Université Laval de 2011 à 2013. Et c'est un programme qui est plus proche un peu pour préparer les futurs entraîneurs des différents sports. Donc oui, il y avait une composante un petit peu plus administrative, mais c'est un programme qui touche plusieurs sphères, oui.
C'est vraiment intéressant. On pourrait en parler longtemps, mais comme aujourd'hui à l'émission, on voulait parler des Commonwealth, je vais ramener un peu plus sur le terrain des Commonwealth. Tu as déjà de l'expérience, c'est bon, aux Jeux parapanaméricains, également aux Jeux paralympiques. Les Commonwealth, ça va être tes premiers Jeux?
Ça va être mes premiers jeux du Commonwealth, oui.
Est-ce que tu as discuté avec des membres de ton équipe qui ont déjà participé à cet événement-là pour avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler?
Oui, j'ai discuté avec justement, j'avais énoncé son nom un petit peu auparavant, Aurélie Rivard, qui avait gagné une médaille d'argent, si je ne me trompe pas, au dernier Jeu du Commonwealth à Glasgow en 2014. Et j'ai aussi la chance d'avoir un mentor avec le programme Game Plan qui se nomme Tom Ponting. C'est un des nageurs canadiens qui a connu le plus de succès à l'international à la fin des années 80, début 90. Et lui, il a participé à 3 Jeux du Commonwealth.
En
et
natation aussi, ouais.
en natation aussi, oui. Et je parlais justement, c'était mercredi dernier, et là, je lui demandais, OK, mais ça ressemble à quoi un peu les Jeux du Commonwealth? Puis il m'a aiguillé, mais je pense que, comme vous le mentionnez avant, mon expérience aux Jeux paralympiques et Parapanam va m'avoir préparé pour justement les grands Jeux de bonne façon.
Puis pour les gens qui connaissent pas ça, en fait, on a parlé d'une des caractéristiques spécifiques qui est du fait que ça combine les médailles remportées dans le volet para et dans le volet sans handicap. Mais en fait, ça rassemble tous les pays membres du Commonwealth, donc Canada, Australie, Grande-Bretagne, etc., là.
Oui, exactement. Les Jeux du Commonwealth, en fin de compte, ça regroupe tous les pays qui ont été une colonie britannique ou le sont encore, et excluant les États-Unis. Donc, c'est une compétition qui se déroule à tous les 4 ans. Et c'est également une compétition qui, oui, qui est intégrée, donc, des épreuves au niveau paralympique et olympique. Et en natation, comment ça fonctionne? Il y a différentes catégories d'handicap physique et visuel et intellectuel. Les handicaps physiques se regroupant dans 10 catégories, les handicaps étant catégorisés dans la catégorie 1, étant les handicaps étant jugés ayant le plus d'impact sur la natation, et ceux dans la catégorie 10 étant les handicaps qui ont le moins d'impact, qui ont été jugés avoir le moins d'impact sur la natation.
Puis toi, pour avoir une idée, tu te classes où?
Moi, dans tout ça, je me classe à la catégorie 7.
OK.
Et dans ma catégorie, par exemple, on va retrouver des handicaps comme des hémiplégies. On va retrouver des amputations, exemple, d'un membre complet comme un bras. On peut retrouver également des personnes qui ont une certaine atteinte au niveau de leurs 2 jambes. Donc, c'est très varié en natation. Chaque sport a un système qui lui est propre en classification. Et la natation est probablement des sports où les différents handicaps sont le plus, je vais utiliser le terme mélangé dans les catégories, mais c'est à court de meilleurs termes.
Mais admettons, parce que nous, je pense que la rockstar de la paranatation Canada, tu vas être d'accord avec moi, c'est Benoît Huot, là.
Oui,
Lui, il
oui.
se classait où par rapport à ce système de 1 à 10?
Benoît, lui, se retrouve dans la catégorie 10.
OK, donc le moins touché, là.
Exactement, oui.
Excellent. Puis, ben, quels sont tes objectifs en termes de temps, de podium pour les épreuves qui vont avoir lieu?
Donc, moi, une autre particularité des Jeux du Commonwealth, il y a seulement quelques épreuves de certaines catégories qui sont disputées. Et moi, dans ma catégorie à moi, c'est le 50 mètres libre. Mes chances de médaille sont, je dirais, assez bonnes. On sait tout. C'est un peu particulier en natation. On ne sait pas nécessairement qui va être présent à la compétition avant, peut-être 2 jours avant, ou à peu près. Donc, on va avoir une bonne idée avec les classements mondiaux. OK, on regarde telle personne vient d'un pays du Commonwealth. Est-ce qu'il a été sélectionné pour la compétition? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il va nager vite? Ça en est un autre. Mais non, ben moi, je dirais, aux 50 mètres libres, j'ai une chance de médaille. Il va falloir que je connaisse une très bonne course. Mon entraînement depuis le début de l'année me prépare où les indicateurs que mes entraîneurs et moi avant nous donne un signe que ça, on est en très bonne direction. pour connaître une bonne performance là, dans 3 semaines.
Parce qu'au jeu, au jeu Parapan à Toronto en 2015, tu avais remporté plusieurs médailles d'argent. Mais là, c'est difficile de situer parce que on expliquait qu'au jeu du Commonwealth, il n'y a pas les États-Unis, tandis qu'au jeu parapanaméricain, les États-Unis, c'est une force en présence. Quelle compétition tu as l'impression qui est la plus relevée en termes de qualité?
Je vous dirais les Jeux du Commonwealth pour la raison qui est souvent les aux Jeux Parapanam et Panam, ça veut dire panaméricain, les pays envoient souvent une équipe B. C'est car durant cet été-là, il y a également les championnats du monde. Et souvent, ils envoient une équipe qui est un petit peu plus performante aux championnats du monde et une équipe qui est un petit peu moins performante aux championnats panaméricains. Pour le Canada, en 2015, ce n'était pas le cas parce que c'était des jeux à la maison et on voulait bien performer. Donc, on avait quand même envoyé une équipe A pour les jeux parapanaméricains et pour les championnats du monde. Mais les États-Unis avaient envoyé une équipe B, par exemple, aux championnats panaméricains.
Ben, on va suivre ça avec grand intérêt. On va aussi garder un œil sur les succès de ton ami, je l'imagine, Aurélie Rivard, là, qui était la reine des derniers Jeux Parapan. On peut dire que les Québécois sont vraiment très bien représentés au sein de l'équipe de paranageurs. C'est en partie grâce à toi, puis à ton excellent travail de porte-parole. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, Jean-Michel.
Ben, ça me fait plaisir.
On te souhaite le meilleur des succès en Australie.
Merci encore.
Au revoir.
Au revoir.